9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Pays Basque.
Quand il fait un temps comme ça, il faut allumer, c'est quoi, c'est les codes, on disait autrefois les codes, mais je sais pas. Bonjour Philippe Dallan.
Bonjour Stéphane.
Ah, c'est quoi, c'est les feux de croisement, c'est ça?
Les feux de croisement, bien.
Les feux de croisement, c'est bien. Ça, bon, parfait.
Rayeuses et feux de croisement.
Vous l'avez compris, les questions de voitures, ce matin nous en avons parlé précisément, de voitures électriques. Bienvenue en tout cas Philippe Dallan, fantasme ou réalité? Est-ce que la voiture électrique et la voiture de demain, va-t-elle enfin répondre cette voiture électrique à nos attentes en termes d'autonomie, de prix d'achat, de simplicité d'utilisation et de recharge aussi? Ou alors le bon vieux moteur thermique a-t-il encore un bel avenir? On pose toutes les questions ce matin, Philippe, à notre invité, le président, vice-président de l'association des conducteurs automobilistes zéro émission. C'est les propriétaires de véhicules électriques. Pascal Vachette. Bonjour Pascal Vachette.
Bonjour. Bonjour.
Merci à tous. Merci d'être avec nous. Moi, j'ai reçu un petit courrier au mois de février. On avait déjà parlé de véhicules électriques ici le matin. Et à l'issue de l'émission, on m'a envoyé un petit courrier en me disant c'était bien, mais il fallait rajouter encore des choses. Donc vous êtes là pour ça ce matin, d'accord?
Eh bien, c'est merci à vous de m'avoir invité.
Et puis, comme chaque fois, évidemment, si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour vous manifester, nous dire ce que vous pensez de votre voiture. Est-ce que vous trouvez que c'est la voiture que vous conduisez, c'est la voiture de l'avenir, ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire et lesquels? 05 59 59 17 17.
Voyez la vie en bleu.
Nous sommes au volant de la voiture électrique ce matin avec nos invités, notre expert automobile Philippe Dallator et Pascal Vachette, le vice-président de l'association ACOZ, l'association des conducteurs d'automobiles zéro émission, les voitures électriques. On lisait, Pascal, la voiture électrique, pour vous, mais je sais que vous êtes un inconditionnel, on va le comprendre ce matin, c'est la voiture de demain véritablement.
Oui, tout à fait. Parce que je pense que, si vous voulez, au niveau des particuliers, ça restera la voiture essentielle. Par contre, pour d'autres moyens de transport, il y aura d'autres moyens d'énergie. Je pense notamment aux poids lourds, on ne pourra pas mettre des batteries dessus, donc on sera obligé de trouver des énergies alternatives.
Le premier frein aujourd'hui, parce qu'on va être très clair, on ne va pas se mentir, le premier frein à l'achat d'un véhicule électrique aujourd'hui, c'est l'autonomie. On se souvient des autonomies catastrophiques, que je qualifie de catastrophiques, mais autour de 100 km, hein, pour notamment les Renault Zoé, c'était pas très vendeur.
Non,
c'est en train de changer tout ça.
Oui, c'est en train de changer, parce que déjà maintenant, sur les derniers véhicules qui vont sortir, que ce soit Renault, Peugeot, même Volkswagen et tout, on va avoir des autonomies qui sont de l'ordre de 340 à près de 400 km. Bon, avec des conduites, bien évidemment, tranquilles. Vous avez, si vous roulez à 130 ou 140 tout le temps, vous n'aurez pas cette autonomie-là. Bon.
En kilowatts, parce que c'est comme ça qu'on mesure la puissance des moteurs électriques, exact. C'est ça? Votre prochaine voiture, parce que je crois que vous l'avez commandée et vous aurez les clés au mois de janvier, c'est
voilà,
ça?
Voilà, tout à fait.
Ça serait une 52 kW?
52 kW au total.
Et on a commencé avec les premières Zoé, c'était combien?
À 22 kW.
22 kW, Philippe. Donc là, on voit les progrès qui ont été faits.
Hein, oui. Effectivement, c'est pas que ça va jusqu'en 71, il y a même plus gros que ça. On a évolué. Le problème, c'était les batteries. Et aujourd'hui, on a une technologie, c'est un peu comme en informatique. Entre les premiers ordinateurs qu'on avait, maintenant, il n'y a pas photo. Et là, ils sont en train d'investir. On va agrandir les autonomies.
Alors, pour une Zoé qui fait 52 kW, on peut rouler combien de kilomètres?
Je dirais.
Il y a deux données. Il y a la donnée constructeur et ce qui se passe réellement après quand on est au volant de la voiture.
Les nouvelles données qui ont été faites avec le cycle WLTP, d'ailleurs, notre expert peut en parler, ce sont des cycles qui sont déjà un peu plus normalisés qu'avant. Mais maintenant, vous faites, vous allez faire 300 km sans problème.
Le constructeur annonce, je crois, 395 km.
Mais disons.
En réalité, 300 km.
Ouais, 300, même un peu plus. Ça dépend de votre niveau de conduite aussi.
C'est-à-dire qu'il faut changer, Pascal, sa conduite aujourd'hui?
Tout à fait.
Avec un véhicule électrique, pour aller plus loin, il faut être quoi? Plus doux?
Plus doux.
Quel type de conduite faut-il avoir?
Il faut avoir une conduite, je dirais, standard et tranquille que la moyenne des gens ont, et sans forcer sur la pédale d'accélérateur. Voilà. Effectivement, je vous citais le cas d'un de vos confrères qui, en prenant une Zoé 40, a voulu faire Paris-Caen, seulement il voulait être à 130 km/h tout du long et il n'y est jamais arrivé. Donc, le plus gros problème de l'électrique à l'heure actuelle.
C'est aussi un frein de la voiture électrique, ça. Voilà. On a raison d'en parler. Sur l'autoroute, c'est pas extra la voiture électrique parce que rouler à 130, les voitures électriques, elles aiment pas ça.
Non,
c'est
compliqué. Sauf les Tesla, sauf d'autres véhicules qui, eux, ont été calibrés pour ça.
Ils ont des très grosses batteries.
Ouais, ils ont des batteries de 75 kilos, donc c'est déjà beaucoup plus gros.
Vous, avec votre Zoé sur l'autoroute, vous faites du combien?
Je suis à peu près à 100 km/h.
C'est pas dangereux.
Non.
Vous circulez au milieu des camions à 100 km/h.
Oui. Alors on est sur la voie de droite, mais dès qu'on en a un qui est un peu trop près derrière, on double et on repasse devant l'autre et ainsi de suite.
On double facilement en voiture électrique.
Alors vous avez une puissance de démarrage et de rentrée sur autoroute qui n'a plus rien à voir d'un thermique. Et d'ailleurs.
La Philippe, c'est ça.
Oui. La puissance elle est instantanée en électrique. C'est le gros avantage.
On appuie sur la pédale et claque, il n'y a aucun temps de.
Et plein pot. Non, mais après, le problème, il a raison. C'est qu'il y a, comme on a développé les moyens, on a de plus en plus de recharge de batterie dans des stations sur les autoroutes. Donc, ça permet, en fait, il faut programmer son déplacement et prendre le temps, à la rigueur, de recharger pour pouvoir faire son train. Juste quand on fait un parallèle, il y a quelques années, Renault 9, ils avaient mis des témoins pour la consommation vert, orange et rouge. Mais là, c'est pareil. Si vous accélérez toujours, et bien, votre batterie, elle va se vider. Si vous accélérez normalement, elle va durer plus longtemps.
D'accord, parce qu'on récupère de l'énergie en fait au freinage.
Oui, en ville et même au freinage ou même dans des descentes.
Ouais.
Simplement un petit exemple, c'est pour ceux qui connaissent Bidache et la descente entre Saint-Palais et Bidache, c'est une descente à 7%. Je peux vous dire que je rechargeais avec la Zoé 40 aux alentours de 22 kW à 90 km/h et sans toucher l'accélérateur et en régulateur. Donc
une vraie recharge qui se fait.
Il y a une recharge qui se fait
en descente et au freinage.
En descente et au freinage, voilà. Et donc pour les nouvelles voitures, vous aurez le freinage directement, que ce soit la Zoé ou Nissan.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, le freinage directement?
C'est-à-dire que vous ne conduisez qu'avec la pédale d'accélérateur.
Et pour freiner?
Vous soulevez la pédale d'accélérateur, elle freine.
On appuie sur la pédale, on accélère, on relâche la pédale.
Voilà. On freine. Et en ville, c'est ça. Et vous régénérez la batterie.
Un peu comme les autotamponneuses quand on était gamin.
C'est ça.
Bon, souvent les propriétaires de voitures électriques disent c'est bien, mais c'est anxiogène justement cette histoire d'autonomie. Quand on regarde et quand on voit que ça baisse, ça crée un stress qui finalement gâche un peu le plaisir.
Non. Alors je vais vous dire, vous pouvez demander à mon épouse qui était très anxiogène.
On va l'appeler
au départ.
Tout de suite.
Ouais, vous pouvez l'appeler. Et elle était très anxiogène et maintenant non, absolument pas. Vous trouvez les moyens de recharge comme vous voulez avec les applications sur smartphone.
On va parler des bornes tout à l'heure parce que c'est intéressant aussi le développement des bornes.
Donc c'est une autre méthode de conduite.
C'est une autre façon d'aborder la conduite.
Ouais, tout à fait.
La route.
C'est complètement différent.
Bon, alors si vous êtes vous aujourd'hui conducteur de véhicules électriques, venez prendre la parole. Venez nous dire justement ce que vous aimez dans la voiture électrique ou ce que vous n'aimez pas, ça nous intéresse. Hein. Pascal est preneur de tous les témoignages, Philippe aussi. 05 59 59 17 17. Ou si au contraire, vous envisagez peut-être d'acheter une voiture électrique, vous êtes sur un projet, vous y pensez, vous n'êtes pas encore complètement convaincu, vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Là tout de suite, le standard est libre, c'est Isabelle qui vous reçoit ce matin. 05 59 59 17 17.
Dans France Bleu Pays Basque.
Allez, la voiture électrique en question ce matin au 05 59 59 17 17. Est-ce que vous conduisez ou est-ce que vous aimeriez conduire un véhicule électrique? Venez partager votre opinion avec nous. Pascal est au téléphone. Bonjour Pascal, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous nous écoutez sur francebleu.fr. Je crois que vous roulez, vous, en voiture électrique, c'est ça, depuis quelques années
oui,
aussi?
Depuis 2013.
Expliquez-nous justement quel plaisir vous y trouvez et pourquoi vous avez et comment vous avez basculé vers la voiture électrique.
Bah, j'ai basculé par un côté professionnel, parce que là où je travaillais, on s'était équipé de voitures électriques, et ça m'a convaincu d'en acquérir une à titre personnel.
Oui.
Je voulais revenir sur ce qu'a dit votre invité, là, Pascal,
oui.
Sur l'autonomie et l'anxiété. Moi, à titre personnel, en 2017, avec une Zoé, la Zoé là qui va plus être commercialisée, là, ce qu'on appelle la 40 kg, la batterie, j'ai fait la route des cols pyrénéens. C'est-à-dire que je suis parti de Biarritz, en direction de Banyuls sur mer, en passant par la route des cols, c'est à peu près 42 cols hein, qui sont répertoriés sur cet itinéraire. Et je l'ai fait en faisant des étapes, en faisant 4 étapes. Il faisait de 180 à 250 km avec que des enchaînements de cols, des montées, des descentes, et sans jamais avoir besoin de recharger pendant l'étape, juste à l'arrivée. Alors avec ça, si on n'a pas démontré que les voitures électriques, elles ont de l'autonomie,
c'est pas...
Oui, il y a autre chose que je voudrais dire, parce que je connais bien la région. Pour le secteur du Pays Basque, compte tenu de son relief, compte tenu du climat et compte tenu aussi de la vitesse moyenne, il y a quand même une densité de circulation sur le Pays Basque qui est importante. Moi, je le dis, la voiture électrique, elle est parfaitement adaptée.
Mais d'accord avec
vous.
Pascal, vous êtes d'accord avec l'autre
oui.
Pascal?
Oui, tout ouais. à fait, sans aucun problème.
Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de voies rapides, on a des routes
On a des voies rapides, on a un réseau quand même autoroutier pour aller sur Pau, pour aller sur Toulouse. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez prendre les voies extérieures autoroutières et vous allez trouver sans aucun problème, éventuellement, la possibilité de se recharger. Mais
alors, justement, je voudrais qu'on ait quelques mots sur les bornes. Alors, est-ce qu'il y a des bornes partout? Est-ce qu'elles continuent à se multiplier, ces fameuses bornes? On va peut-être poser la question à Pascal, vous êtes au téléphone avec nous. Est-ce que vous trouvez, vous, des bornes très facilement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a de plus en plus?
Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup qui ont été installés par les collectivités locales, par des privés, dans les centres commerciaux. Et la grosse évolution aujourd'hui, c'est effectivement des investissements d'origine privée qui se développent sur autoroute. Il y a un gros maillage qui est en train de se constituer et qui va être prolongé aussi par des équipements de haute puissance qui ne seront pas que sur autoroute. Et ça, c'est le programme d'EDF qui va se développer. Donc, avant, on circulait sur des périmètres qui étaient assez courts et on se rechargeait facilement. Demain, on pourra circuler sur des périmètres beaucoup plus longs. Bon, moi, à titre personnel, je suis allé plusieurs fois à l'étranger et j'ai jamais eu de difficulté.
Carrément.
Pour me recharger.
Vous êtes parti dans quel pays? Vous avez fait quel pays?
Italie, Espagne.
L'Italie-Espagne, ah oui. Effectivement, vous remarquez aussi ce maillage, Pascal, ici chez nous au Pays Basque, on a de plus en plus de bornes de recharge.
Ah bah déjà, vous en avez 128 pour le département. Il y a un maillage qui est fait, qui avait été initié par la sénatrice Saint-Pé, qui était présidente du SDEPA à l'époque, et qui avait mis un réseau de bornes tous les 30 kilomètres. Tous les 30 kilomètres, vous avez une borne à 22 kilowatts. Mais ceci dit, pour revenir, on en est à l'heure actuelle à peu près à 28 000 bornes développées en France. Il est prévu que le programme en 2022 ce soit 100 000 bornes.
Oui, alors à 2022,
à ça, 2022 ça va peut-être être un peu court. Mais
d'ici deux ans, on va multiplier les bornes par 3.
Ouais.
Ah oui, effectivement. Donc c'est un développement considérable. Alors il y a des facilités techniques aujourd'hui, notamment des applications pour repérer les bornes. D'accord, ok. Mais des applications qui nous disent aussi si les bornes sont libres ou occupées, c'est ça, Pascal?
Tout à fait.
C'est ce qu'on m'a expliqué. Moi, je découvre aussi. C'est fiable, ça marche bien.
Oui, sans aucun problème. Vous mettez, par exemple, ce matin, je testais une borne. Par exemple, ici, la borne de la 11 est indisponible.
D'accord.
Ils vous le mettent.
Si je suis ici sur les allées marines et que je manque d'autonomie, je vais trouver une borne relativement proche.
En face, vous avez, au quai de la Seps, vous en avez une. Oui, mais vous en avez à Sainte-Croix aussi.
Vous avez. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus et on s'en rend pas forcément compte, Philippe, parce que quand on n'a pas de voiture électrique, on s'intéresse pas tellement aux bornes de recharge. Hein. D'accord.
Sûr. Oui, on a absolument pas avec une voiture normale, on a absolument pas ce besoin. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est Internet qui va vous répondre, donner les informations à l'instant T.
Merci pour ce témoignage, en tout cas, Pascal au téléphone. Je voudrais qu'on s'arrête sur les idées fausses aussi reçues sur la voiture électrique. Alors, il est souvent question de l'empreinte écologique, et on nous dit c'est pas terrible finalement, contrairement à ce qu'on pouvait penser initialement au départ. Finalement, elle est mauvaise parce que y a la batterie, parce qu'il y a tout ça, c'est difficile à recycler.
Eh ben, c'est devenu complètement faux. Il y avait une étude de l'ADEME qui était parue en 2012-2013 qui, je dirais entre guillemets, assassinait le véhicule électrique. Et en 2016, ils ont carrément revu le problème avec une étude qui avait été principalement faite par les Anglo-Saxons. Et on arrive à ce que le véhicule électrique soit 40% moins polluant que le véhicule thermique.
Il se recycle
toute la phase de vie, c'est-à-dire en construction du véhicule électrique, il a une empreinte carbone beaucoup plus grande que le véhicule thermique. Mais après, si vous allez à une durée de vie de 150 000 km, vous êtes 40% en moins. Parce que, tout simplement, vous n'émettez pas de gaz, vous n'émettez pas de particules fines, dans les, je dirais, au niveau des émissions. En plus de ça, l'énergie électrique, alors selon les cas, c'est empreinte carbone liée au nucléaire ou pas au nucléaire, tout ça c'est un vaste débat. Mais en plus de ça, au niveau entretien, vous avez aussi des avantages. Vous n'avez plus de vidange, vous n'avez plus d'entre-deux.
Voilà. Puisque vous parlez de l'entretien aussi, on peut en dire peut-être un petit mot par rapport à la voiture thermique, Philippe Dallator. L'entretien est moindre sur un véhicule électrique?
Il est sans commune mesure, il n'y a plus rien.
Sans commune mesure.
Oui, d'abord le moteur, il y a beaucoup moins de pièces à mouvement, il y a beaucoup moins de risques de panne. Il n'y a plus de vidange. On développe de plus en plus des moteurs électriques pour remplacer au niveau du freinage, au niveau de la direction. Il faut sortir du schéma que l'on a depuis des années et des années. L'entretien d'un véhicule électrique, il coûte epsilon, beaucoup, beaucoup moins. Et beaucoup moins de risque de panne.
D'accord. Ça, vous l'avez constaté parce que vous êtes à votre troisième véhicule, c'est ça, Pascal?
J'ai jamais eu de panne.
Vraiment? Véritablement?
Ah oui.
Même les pannes électroniques au départ?
Aucune panne électronique. Rien. Alors j'étais peut-être chanceux parce que je vais vous dire, moi j'ai on a eu un membre qui a eu au départ une Zoé, bon il a eu un problème de chargeur caméléon, le chargeur est tombé en panne, et c'est un cas parmi tant d'autres, et son véhicule maintenant a tapé les 300 000 km.
D'accord, donc ce qui veut dire qu'on est sur des véhicules relativement fiables quand même, fiables.
Oui, hein, oui, oui.
Et qui durent, parce qu'effectivement 300 000 km avec les mêmes batteries, 300 000 km.
Non. La batterie a été changée une fois.
Donc quelle durée de vie, justement, ces fameuses batteries?
Alors ces batteries, sur les véhicules, il est calculé par les constructeurs que ça va faire 8 ans, à peu près, parce que avec les cycles de recharge. Mais par contre, elles vont aller jusqu'à 20 ans, parce qu'on va les conserver pour faire du stockage électrique, notamment avec les énergies nouvelles, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque.
Ça, c'est déjà des choses qui se font, qui sont...
Oui, tout à fait. Vous avez Total qui a fait ça à côté de ici les Moulineaux pour la SNCF, pour l'alimentation de la gare Montparnasse.
Autre point positif, c'est l'assurance. Là aussi, ça coûte moins cher. Moi, j'étais étonné en apprenant ça.
Parce que un véhicule électrique, d'abord, il est limité en termes de puissance. Ouais, ouais. Je parle, par exemple, que ce soit les Leaf, les Zoé, etc., on est limité à 130 km/h. Au point de vue vol, le vol, vous n'en avez pas, parce que la voiture est tout le temps tracée par le constructeur.
D'accord.
Donc, il y a ça. Et puis, voler un véhicule électrique, il faut déjà avoir une sacrée technicité pour pouvoir le démonter, avec le risque de rester sur place.
De se faire arrêter parce qu'on n'a pas pu aller assez loin.
Oui, voilà.
Allez, vous allez réussir à nous convaincre, Pascal. 05 59 59 17 17. Venez nous rejoindre. Est-ce que vous pensez, vous, à la voiture électrique? Est-ce que psychologiquement, vous êtes prêt à changer de voiture, à abandonner votre voiture technique pour une voiture électrique? Venez nous le dire, hein, ça nous intéresse. 05 59 59 17 17. La voiture électrique, ce matin avec notre invité Pascal Vachette de l'association ACOS et Philippe Dallator, expert automobile. On n'a pas parlé des véhicules hybrides. Pascal, c'est le premier pas vers l'électrique, la voiture hybride?
À l'heure actuelle, ça peut être le premier pas. Et puis aussi, je dirais qu'au niveau des constructeurs, ils vont pas passer comme ça de toute leur production en véhicule thermique ou en véhicule électrique. Donc ça peut être un premier pas. Bon, après, je dis à titre personnel, je trouve ça un peu idiot d'avoir deux moteurs sur une même voiture. Bon, maintenant... je dirais que c'est
un moteur pour faire les grandes distances et un autre moteur pour utiliser en ville.
Et c'est une sécurité. Pour des gens qui veulent la sécurité, oui, effectivement, c'est une étape.
Vous y croyez, vous, Philippe?
Tous les goûts sont dans la nature. Il y a besoin de tout.
Cette voiture électrique, je vous sens pas très.
Non. Moi, je
suis
non, non, non. Autant il y a 5 ans, je vous ai écouté gentiment comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai une autre approche. C'est comme à la voiture de location, parce qu'aujourd'hui, on a tellement développé que rien n'empêche d'avoir une voiture électrique et faire des longs trajets avec une voiture qu'on voudrait avec plus d'autonomie.
Et louer une voiture pour faire partir en vacances en Espagne, au Portugal ou aller plus loin.
Mais aujourd'hui, dans notre logiciel, on a tellement pris l'habitude de dire j'achète et après il faut payer pour l'entretien qu'il faut y réfléchir.
Et d'autant que, si on en parle aujourd'hui, c'est que maintenant on trouve sur le marché, Pascal, de plus en plus de véhicules d'occasion. Il y a pas mal de véhicules, de Zoé notamment, et
Renault, qui ont été les plus gros vendeurs de véhicules électriques de première génération. Je vais vous dire, vous prenez la concession ici, ils vous disent directement, je rentre une Zoé, elle ressort aussi vite. Hein.
D'accord. Ça, donc, sur le marché de l'occasion, ça fonctionne bien. Il y a aucune crainte à avoir, Philippe, à acheter une voiture électrique d'occasion.
Sauf l'inconnu, non. Il y a encore moins de risques que sur les véhicules traditionnels.
Ouais. Je voudrais qu'on parle de prix aussi. Ça, c'est très important aujourd'hui. Pascal, une Zoé, ça coûte combien? Il y a, je crois, deux propositions qui sont faites par le constructeur. Je parle de Renault, mais c'est pareil aussi pour les autres.
Pour Nissan. Pour Nissan ou d'autres, ils vendent le véhicule avec les batteries. Hein, il n'y a pas de location.
Donc on achète la voiture et les batteries. Alors on est propriétaire de tout.
On est propriétaire de tout, donc il faut compter au-delà de 30 000 euros. Hein.
D'accord.
Après, vous avez le bonus écologique qui vient en diminution.
On va être très clair. 30 000 euros, c'est le prix.
Un peu plus, oui.
Pour la Zoé électrique?
Ouais. La Zoé, si vous voulez, la version de base est à 32 000 euros. Donc, si vous enlevez les 6 000.
Voilà. 32 000, il faut enlever 6 000. En fait, 6 000, c'est l'aide qui est accordée automatiquement par l'État.
Et même pour 2020. Et après, si vous mettez un véhicule à la casse qui est ancien, vous allez, alors là, il faut demander, au concessionnaire, qui lui a tous les éléments. Ça dépend, et vous avez encore une somme supplémentaire.
D'accord,
qui arrive.
Donc ça, c'est une aide supplémentaire. Donc si j'ai fait le calcul avec 26 000 euros, je suis propriétaire complètement de ma voiture. Mmh. Si je décide de n'acheter que la voiture et de louer les batteries. Ça, c'est une proposition qui est faite par Renault, par exemple.
Pour le premier véhicule de base, c'est 23 900 moins les 6 000 euros. D'accord. Et vous allez être, pour les particuliers, dans des offres flex, selon les kilométrages, vous allez être entre 64 euros et 124 euros. Et ça dépend du nombre de kilomètres que vous faites par année.
D'accord, donc on débourse 18 000 euros, là, on est propriétaire de la voiture, mais on loue les batteries par
mois. Voilà, tout à fait. Okay. Et vous êtes dans la location, vous êtes garanti. Si jamais vous tombez en panne, parce que la batterie vous lâche, c'est Renault qui vient vous chercher. Hein.
D'accord, donc les batteries sont garanties. On est tranquille de ce côté-là.
Ah, de ce côté-là, oui.
Est-ce qu'elles sont au bon prix, ces voitures électriques, Philippe, ou ça vous semble encore trop cher?
Je reviendrai juste sur la batterie. Attention, quand le véhicule est à vous, les batteries sont à vous.
Oui,
les batteries,
sûr, on achète la
totalité. Mais quand on est en bout de course, la batterie, on n'en fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas l'acheter n'importe où. N'importe qui ne peut pas la récupérer. Donc ça coûtera là de l'argent. Le problème de Renault, quand il loue, il se débrouille de la batterie. Après, c'est son problème.
Ils en font leur affaire.
Destruction, voilà. C'est le prix du marché qui va dire. On a des aides de l'État. Pour le moment, les gens, on a une progression. On doit être dans le bon prix, à mon avis. C'est compliqué de dire que le prix. On a une offre qui évolue, on en vend de plus en plus, donc le prix doit être, à mon avis, il est bien placé, là.
On a souvent aussi accusé ces voitures électriques d'être un peu spartiates, pas forcément hyper confortables. Qu'est-ce qu'il a né réellement, Pascal? Je me fais l'avocat du diable.
C'est
ce qu'on a vu dans les magazines automobiles.
Oui, tout à fait. Bon, les premières Zoé, spartiates, non. Bon, c'était un véhicule. Même la deuxième, il y a eu quand même des évolutions qui ont été faites. Mais là, le dernier modèle qui est sorti, c'est l'équivalent d'une Clio 5 à l'intérieur. Donc, tout a
été
rattrapé.
On retrouve le même environnement, la même qualité de finition. Il y a des progrès qui ont été faits de ce côté-là aussi.
Oui. En informatique embarquée, vous avez la même informatique embarquée que une Clio. Hein. Donc, tout a été fait. Effectivement, il y a eu des étapes. Au départ, Renault, je veux dire, en 2010-2012, ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Donc, ils ont dit que ça allait être un véhicule purement urbain et à côté. Voilà. Mais après,
un mot sur l'assurance. On n'en a pas parlé, l'assurance.
Oui.
Ça coûte moins cher aussi qu'un véhicule thermique. S'assurer pour une voiture électrique.
Bien sûr, parce que déjà, vous êtes limité en puissance, pour les risques d'assurance, limité en puissance. Le véhicule est tout le temps tracé au point de vue du vol.
Oui.
Il est tout le temps tracé. Donc, automatiquement, on peut le récupérer.
Donc, vous, par exemple, Pascal, vous avez, je crois, 50% de bonus, c'est ça? Vous êtes un bon conducteur?
Voilà, oui.
Bon, vous lancez votre voiture
électrique. Non, cette chance-là.
Vous payez combien annuellement pour votre
aux alentours à peu près de 280 euros.
Donc, effectivement, là, Philippe, il n'y a pas photo quand même. C'est pas cher.
Ça, c'est sûr.
Effectivement.
Là, il faut juste voir ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut juste voir l'évolution, quelle va être la sinistralité et qu'en réparation, combien coûte le véhicule électrique. Si le véhicule coûte cher, les compagnies vont réguler. Si le constructeur fait en sorte que ça coûte pas trop cher, on va rester dans des prix attractifs.
Vous êtes vice-président de la CAUSE, l'association des conducteurs d'automobiles zéro émission. Qu'est-ce qu'elle apporte, votre association, Pascal, aux propriétaires de véhicules électriques?
Alors, elle apporte via toutes les actions que l'on puisse avoir. Et c'est-à-dire, depuis 2 ans, on a pris énormément de contacts au niveau national et au niveau du gouvernement, puisqu'on est en contact avec un préfet qui est au ministère des Finances. Nous sommes en contact avec le ministère de Transition écologique, avec le secrétaire d'État et la ministre Elisabeth Borne. Et si vous voulez, notre but, nous sommes des bénévoles, et notre but, c'est de dire aux décideurs, attention, est-ce qu'il est possible de faire ceci, de faire cela et
dire nous sommes là.
Nous sommes là et pour vous aider.
C'est faire du lobbying pour la voiture électrique finalement, ça non?
Oui, mais sans contrepartie. Voilà.
Du bon lobbying.
Contrepartie parce que nous sommes des gens qui croyons au véhicule électrique et à son développement. Je vais vous dire, on a parmi nos adhérents un membre qui est un médecin, qui lui voit les dégâts au point de vue maladie des bronches.
Je voulais pas demander jusqu'à présent, Pascal, et on va terminer là-dessus. Vous savez combien il y a de conducteurs de véhicules électriques ici au Pays Basque? C'est pas une question piège.
Hein, non, je peux pas dire exactement.
C'est difficile de recenser
parce que bon, vous avez Nissan, vous avez Renault, vous avez Tesla, vous
toutes les marques.
Il faudrait aller en préfecture pour savoir et encore, je sais pas.
En tout cas, Philippe, ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de véhicules électriques qui circulent sur nos routes. Ça, c'est un constat que chacun peut faire.
Oui. Depuis quelques années, on est monté à un Epsilon et je pense que ça va continuer. C'est vraiment la voiture de demain. Je ne pense pas qu'on fasse marche arrière. Là. Les gens, ils sont trop impliqués aujourd'hui dans la protection de la nature, dans la protection de la terre. Ce que coûte à fabriquer un véhicule, on est en plein dedans.
Bon. J'ai l'impression qu'effectivement, que le véhicule électrique, pour le coup, avance là.
Hein, automatiquement, je pense qu'on en est à une étape. Je prends toujours une image, on est un peu encore au Far West. Voilà. Mais on est en train.
C'est le début,
avec l'esprit frontier, on est en train d'avancer tout doucement.
Il faut qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Merci beaucoup, Pascal Vachette de l'association
Pacos.
On aura l'occasion de vous réinviter parce qu'on va continuer à parler de la voiture électrique,
tout
évidemment.
Fait,
parce que nous aussi, ici, on est tourné vers demain et ça nous intéresse. Merci, Pascal.
Merci à vous.
Philippe Dallator, merci.
Merci.
On parle de voiture, évidemment, maintenant, la prochaine fois, ce sera en 2020. Merci, Philippe. À bientôt.
Allez, chat.
Au revoir.
La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr.